Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Il faut avoir du courage pour briser la loi du silence. Pour cela, mais aussi pour se reconstruire, pour questionner les faits, eh bien les livres sont indispensables. Voici ce soir un livre qui sera un nouveau marqueur dans la lutte contre les violences sexuelles, contre l'inceste, contre le viol, contre la culpabilité, contre la honte qui accompagne le silence, « La Familia Grande » de Camille Kouchner. C'est un livre remarquable, c'est un livre courageux, c'est un livre utile. Ce n'est pas seulement un témoignage. Ce n'est pas non plus une dénonciation qui livrerait à la vindicte populaire le beau-père de l'auteur. C'est un livre qui démonte, sans aucun voyeurisme, mais avec une implacable précision, le mécanisme de l'emprise, la façon dont l'inceste se met en place, les sables mouvants du silence aussi. La Familia Grande s'adresse à tout le monde. Que peut l'écriture contre l'omerta, le silence, le déni, l'absence de justice? Eh bien, c'est l'une des questions que soulève ce livre. Camille Kouchner est mon invitée ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation et cette émission, Camille Kouchner.
Avec plaisir.
La Familia Grande vient donc de paraître aux éditions du Seuil. C'est le récit d'une délivrance, mais d'une délivrance sans cesse différée. Nous allons en parler longuement, vous et moi, tous les deux, en tête à tête, pour débuter cette émission. Et en deuxième partie d'émission, si vous le voulez bien, nous poursuivrons la conversation avec les auteurs de trois livres qui, me semble-t-il, répondent à beaucoup des questions que vous soulevez dans La Familia Grande. Muriel Salmona est psychiatre et psychothérapeute. Elle est l'auteur notamment du livre noir des violences sexuelles. Avec elle viendra Marie-Pierre Porchy. Marie-Pierre Porchy a été juge pour enfants entre 1984 et 1986 et elle publie un livre dont vous le voyez, le titre dit absolument tout, « Les silences de la loi », livre publié il y a déjà une quinzaine d'années. Et puis le philosophe Marc Crépon sera également sur ce plateau. Il est l'auteur d'un essai paru il y a quelques semaines, intitulé « Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs ». Camille Kouchner, rappelons un certain nombre de choses pour poser le décor. Vous êtes la fille de Bernard Kouchner, le cofondateur de Médecins sans frontières, l'ancien ministre, mais également d'Evelyne Pizier, politologue, grande figure du féminisme. Ce livre, La Familia Grande, qui paraît au Seuil, est un livre dans lequel vous racontez votre histoire, qui est aussi, Camille Kouchner, l'histoire de votre frère jumeau, violé par votre beau-père, à partir de l'âge de 13-14 ans, écrivez-vous, un beau-père que vous ne nommez jamais dans ce livre, mais dont le nom est désormais connu, Olivier Duhamel, professeur de droit, réputé, habitué des réseaux, habitué des plateaux télé également. J'aimerais qu'on commence par une question qui, me semble-t-il, est au cœur du livre et justifie peut-être que ce soit un livre qui permette de dire cette histoire. C'est la question de la légitimité, qui est omniprésente dans tout votre livre, que vous vous posez, que d'autres vous posent, la légitimité de l'écriture. Votre frère jumeau a-t-il lu ce livre? À quel moment vous a-t-il autorisé à raconter son histoire, mais qui est aussi la vôtre?
Mon frère jumeau a lu ce livre, évidemment, parce que je n'aurais pas pu écrire ce livre sans qu'il l'ait lu. Mais j'ai décidé, en écrivant ce livre, de ne pas parler à sa place. Donc, je ne vais pas vous dire quand est-ce qu'il m'a autorisé. Est-ce qu'il m'a autorisé? Ce serait parler à sa place. Ce qu'il m'a fait, c'est un immense cadeau. C'est de reconnaître ma place. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps, qui, moi, m'a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire de comprendre que c'était mon histoire aussi. Et donc, ce n'est pas que mon frère jumeau m'a autorisé. Il m'a dit « je comprends que tu parles ». Il m'a dit « ça n'est pas ma démarche à moi, moi je n'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de quelque chose de public comme ça, j'ai pas besoin de m'exprimer à travers un livre, en revanche, si tu en as besoin, fais-le ».
À aucun moment, vous ne vous êtes dit, ensemble, co-écrivons un livre qui raconterait cette histoire.
Mais ce serait... Ce serait l'inverse de ce que je voudrais faire, en fait. Mmh. C'est-à-dire que moi, c'est pour mieux le retrouver que par ce livre, je me sépare un peu de lui. C'est-à-dire qu'on est, en... on partage beaucoup de points de vue et on est jumeaux, c'est la gémellité, c'est quelque chose de spécial. Mais cette gémellité a fait que pendant très longtemps, on n'était qu'une seule personne, je crois. Et quand moi, j'ai commencé à exprimer le besoin de dire, enfin pas de dire, d'écrire, je me suis un peu séparée de lui, puisque lui, ce n'était pas son souhait.
Voilà. Vous êtes la dépositaire de ce secret, nous y reviendrons presque au début des faits. À quel moment le besoin d'écriture, le désir d'écriture, le sentiment que peut-être vous alliez retrouver votre place par l'écriture, à quel moment ce sentiment vient-il ?
Mais... moi, j'ai lu un livre formidable qui s'appelle « La fabrique des pervers » qu'a écrit Sophie Chauveau. Et ça m'a changé la vie, en fait. C'est-à-dire qu'elle raconte son parcours, elle raconte l'emprise. Parce que là, on parle de secret, mais le secret, c'est comme si on avait été d'accord pour partager quelque chose entre nous, qu'on ne céderait à personne. Mais ce n'est pas vraiment le secret, c'est qu'on a été pris dans la même emprise. Et le livre de Sophie Chauveau, La fabrique des pervers, elle m'a permis de comprendre ça. Le livre m'a permis de comprendre ça, c'est que, en fait, on copartageait une emprise. Voilà. Et c'est pas un secret, ça. C'est juste qu'on est dépositaire de choses, voilà, on n'en a pas vraiment envie, et c'est ce qui nous tombe sur la tête à mon jumeau, mais à mes autres frères et sœurs, à mes cousins, à toute la famille, finalement.
Vous venez de le dire, c'est un livre qui permet à un moment que vous écriviez. Le passage, la libération de la parole, c'est une chose, mais l'écriture, c'en est une autre pour vous ?
C'est le chemin. Moi, je ne suis pas du tout la même après avoir écrit ça. C'est-à-dire que l'écriture, pour moi, c'est un chemin.
Qu'est-ce que ce livre a changé en vous ? Livre qui, alors on va détailler, revient sur les faits, revient sur le contexte, revient en interrogeant la question de la liberté, en interrogeant également la question de la prescription, en interrogeant aussi la question du silence et de sa fabrique. Qu'est-ce que ce livre a changé, maintenant qu'il est écrit et publié ?
C'est-à-dire que j'ai l'impression de... je termine un peu comme ça, mais c'est-à-dire que la boucle est bouclée d'une certaine manière. J'arrive aujourd'hui à accepter de rencontrer à nouveau la petite fille gay que j'étais petite. Et j'avais plus le droit d'être gay pendant très longtemps. J'avais plus le droit au bonheur pendant très longtemps. Le fait d'avoir écrit ce livre, déjà... je me dis, mais en fait, à partir de 14 ans, quand même, les choses ont basculé. 14, 15 ans, 13 ans, cette période-là, les choses ont basculé pour moi. Et avant, quand même, on était très heureux, mais vraiment très, très heureux. Le chemin de l'écriture, ça me permet de retrouver les années d'avant.
Donc, c'est une forme de nostalgie ?
Non, parce que je... Non, de libération.
De libération.
De libération, parce que je ne revivrai pas ces années-là, mais je peux me retrouver cette énergie et cette joie.
Quel rôle dans l'écriture de ce livre tient la place du réveil ? C'est votre expression, réveiller, au moment où vous-même vous rendez compte que vous avez un enfant, en l'occurrence un beau-fils, qui pourrait peut-être être en âge de subir les mêmes agressions, au moment où votre frère jumeau a un neveu, enfin vous avez pardon un neveu, son fils, et puis au moment ensuite où vous allez avoir vous-même un enfant.
C'est vraiment cette impression-là, c'est-à-dire d'être flottante, alors pas totalement endormie, mais flottante, flottante pour être... pour être un peu loin du réel, pour réussir à survivre, être un peu loin du réel, du quotidien, des gens qui sont là, qui ne sont pas là, des efforts à faire tous les jours et qui ne sont pas forcément des efforts dont... Voilà, qui, je surnageais. J'étais pas endormie, mais j'étais sidérée, quoi. Et en effet, avoir mon beau-fils... le voir évoluer avec cette naïveté de l'enfance, ce bonheur de l'enfance. Et pourtant, déjà, il interrogeait beaucoup de choses et il était... je me suis dit, mais en fait, il a besoin qu'on le protège. On n'est pas dans les mêmes âges. Les adultes doivent protéger les enfants. Et ce n'est pas du tout advienne que pourra.
Vous dites que c'est une proie potentielle.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, par le réveil, ce que je veux dire, c'est que ça m'a... Moi, j'ai pris conscience que les choses n'étaient pas normales. Et je ne sais pas si j'ai projeté qu'il était une proie. Mais en tout cas, je pense que j'ai pris la mesure. Voilà, c'est plutôt ça. J'ai pris la mesure de ce qui était arrivé à mon frère. Mmh. Voilà. C'est plutôt ça, le réveil.
On vient de parler de votre frère, on a parlé des enfants, on vient de parler de vous. Vous n'avez pas encore parlé de votre beau-père. Mm-hmm. Est-ce que le fait que depuis, disons, une dizaine d'années, sa surface sociale, son réseau d'influence se soit accru, avec, par exemple, l'année dernière, la présidence du siècle, ce club très fermé qui réunit l'élite française, est-ce que ça a joué un rôle dans votre désir de publier ?
Je crois pas. Je crois pas. Peut-être je me mens à moi-même, hein, mais je crois pas. Mon beau-père, j'en ai fait quelque chose d'irréel. J'ai surtout essayé d'éviter de le regarder vivre. Voilà. Parce que c'était trop violent pour moi, parce que, en fait, c'est mon beau-père et que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et le siècle. Et d'autres responsabilités. Moi, c'est plutôt moi qui me suis retirée de ce monde-là. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, je m'en fiche un peu.
Même si on sent de la colère hein, dans l'adresse que vous lui envoyez et qui est remarquable d'ailleurs, une page et demie, mais alors d'une fulgurance à la fin du livre, où vous le tutoyez, où vous le rudoyez aussi, en le mettant face à ce que les mots peuvent être lorsqu'ils sont crus, et là c'est vous qui les employez, c'est l'homme de pouvoir également qui vous révulse, bah, celui qui donne son avis sur les plateaux télé, qui a réponse à tout.
Oui, mais parce que je comprends pas qu'il n'ait pas su, en fait, bon, mais là c'est la petite fille qui parle, mais je me dis, cet espoir-là, il n'est pas mort chez moi, c'est-à-dire que c'est lui. Donc il doit bien savoir le mal qu'il nous a fait, quoi. Et donc quand je le vois, quand malheureusement je vois son indifférence, je n'en reviens pas. Ce n'est pas tellement les plateaux télé, c'est juste c'est son indifférence, quoi. Voilà. Et je pense que c'est important de le dire parce que l'inceste, l'emprise, la maltraitance des enfants, c'est vraiment partout, quoi. C'est vraiment dans tous les milieux. Moi, c'est mon contexte. Voilà, mon contexte, c'est celui-là, c'est avoir des parents connus, avoir un entourage connu, etc. Mais c'est pas ça qui fait l'inceste, hein. C'est pas ça qui fait l'emprise. L'emprise, on la retrouve partout, dans tous les milieux, dans beaucoup de familles. C'est une histoire singulière, celle qu'on a traversée avec mon frère, évidemment, tout ce qu'il y a autour, son métier à lui, qui était qui faisait quoi, je voudrais pas que ça vienne parasiter le message que mon livre pourrait porter, qui est celui de bon, c'est un peu prétentieux de dire l'universel, mais quand même de dire attention, l'inceste c'est partout, partout, partout.
Mais il y a une part d'universel, c'est peut-être ça aussi qui fait que ce livre touche autant de gens. Je voudrais qu'on aborde les faits, si vous voulez bien. Vous souvenez-vous, Camille Kouchner, du moment précis où votre frère vous a parlé, vous a dit ce qu'il subissait ?
Oui, je m'en souviens très bien. Et ça, c'est entre lui et moi. Mais oui, je m'en souviens très bien. Et je pense que malheureusement, je m'en souviendrai toute ma vie. Et d'ailleurs, malheureusement, je ne sais pas. Peut-être c'est heureux que je m'en souvienne parce que je n'oublie pas.
Quel mot, à ce moment-là, emploie-t-il et vous, dans quel état vous trouvez-vous ?
Je ne peux pas vous dire les mots exactement parce qu'à ce moment-là, c'est ce que je dis dans le livre, mon cerveau se ferme. C'est-à-dire que, peut-être c'est mal dit, enfin non, c'est vraiment l'impression que j'ai, mais tous mes sens s'affolent. Voilà. j'entends plus, je le vois plus, j'ai le cœur qui bat, et je comprends pas ce qu'il me dit, parce que moi aussi je suis petite, et donc en fait, il me dit des choses que je ne connais pas moi. Je suis pas une grande personne, je connais pas la sexualité, voilà, et donc, et il a pas envie de me dire.
Quel âge avez-vous à l'époque ? Je vous pose la question, parce que vous insistez beaucoup sur cette question de la mémoire traumatique, ouais, et de la difficulté à fixer précisément les époques, les périodes.
Bah, c'est très difficile, donc je ne vais pas vous donner un âge précis. Pour moi, c'est la troisième. Et pourquoi c'est la troisième ? C'est parce que j'évoque dans le livre Le Club des Cinq. Le Club des Cinq, c'était mes amis, et je me souviens d'avoir à le leur cacher. Et je me souviens de cette difficulté-là, d'être dans un bonheur avec eux, de me marrer, de découvrir plein de choses, et en même temps d'avoir au fond de moi une espèce de pierre, quoi, dans le cœur, même si... c'est ça qui est paradoxal, et j'espère qu'on saura mieux l'expliquer que moi, mais à la fois j'ai rien compris, et à la fois j'ai su que c'était grave. C'est ça qui était bizarre, parce que la troisième, moi j'avais 14 ans, encore une fois, je connaissais pas la sexualité encore, même si bon, j'étais pas complètement... j'avais évidemment des petits copains, etc. Mais enfin, c'était pas de cet ordre-là. Et donc, mon frère me parle, et je me dis, mais bon... Et tout s'en mêle, voilà. Tout s'en mêle, et puis après, je le laisse, quoi. Je le laisse parce que je comprends pas ce qu'il me dit, je sais pas s'il me demande de l'aide ou pas, j'arrive pas bien à comprendre ce qu'il me dit, en fait.
Est-ce que vous vous sentez traversé par des demandes contradictoires ou des injonctions contradictoires ? D'un côté, votre frère vous dit à un moment « aide-moi à lui dire non, s'il te plaît », et puis de l'autre, mais surtout n'en parle pas. Et avec cet argument, hein, qui est l'argument brandi par le beau-père, « maman est trop fatiguée ». Bah, n'en parle à personne.
Oui, oui, mais en fait, je le comprends parfaitement. Parce que moi non plus, j'ai pas envie qu'on le dise. Moi, j'ai pas envie de leur nuire. Si mon frère me dit « non, mais non, on n'en parle pas », c'est qu'il faut pas que j'en parle, donc j'ai pas envie de lui nuire. S'il me dit « dis-moi à lui dire non », je dis « bah alors, je comprends pas ». Et puis, en fait, tout ça, c'est un peu ramassé dans le livre, mais c'est plusieurs conversations entre nous. Donc voilà. Et moi, je sais, à ce moment-là, que c'est ça l'emprise. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas un secret. C'est l'emprise que mon beau-père a sur moi. C'est l'emprise que ma mère a sur moi. Et je ne veux certainement pas trahir ça. En fait, on a l'impression d'être l'élu. On a l'impression d'être, choisi.
Racontez-nous comment elle s'est mise en place, cette emprise, parce que là, vous le montrez très très bien dans le livre, la conjonction de plusieurs points, un père absent, parfois extrêmement dur avec vous, à la limite de l'humiliation, souvent, avec les réparties cinglantes, en tout cas, c'est ce que vous décrivez, une mère qui ne va pas bien depuis le suicide de son père, et puis de sa mère surtout, qui commence à boire, et un beau-père charmant. Adorable.
Oui, alors...
Est-ce que ça résume les choses ? Est-ce que ça les explique ? Ou est-ce que, au contraire, vous désireriez les séparer ?
Non, non, mais c'est tout un contexte qui, j'imagine, renforce l'emprise. Après, l'emprise, elle vient du personnage solaire qui est mon beau-père. Avant même le suicide de mes grands-parents, il était déjà tellement... Il m'apportait, moi, tellement de joie, tellement Il m'apprenait la vie, en fait. Il m'apprenait... il m'apprenait à réfléchir, il m'apprenait à rire, il m'apprenait ce que c'était que l'ironie, il m'apprenait... Et alors, c'est marrant, parce qu'en vous répondant, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de confondre l'amour paternel que je pourrais avoir lui pour lui et l'emprise ? Mais non, parce que... ce que ça m'évoque, c'est le film de Mai Wen, Mon Roi. C'est-à-dire qu'on voit ce personnage qui brille tellement, qui prend tellement de place et qui est tellement impressionnant. Et moi, il m'a fascinée, quoi. Il m'a fascinée. Voilà. Alors après, j'avais un père absent, mais j'avais un père formidable aussi. Vraiment, je tiens à le dire là, parce que on était des enfants du divorce. Et ils ont essayé de se débrouiller comme ils pouvaient. Et à cette époque-là, en effet, mon père, il faisait autre chose que ses enfants. C'est vrai. Mais depuis qu'il a compris que cette absence nous avait nui, parce que cette absence nous a nui, ça c'est sûr. Il est là, quoi, il est vraiment là. Donc ça veut dire que voilà, il y a un espoir, quoi. Tout ça est peut-être un chemin, ce que je raconte, mais c'est un chemin où il y a aussi de très belles choses. Et avec mon père, là, il y a vraiment des très belles choses.
Diriez-vous que ce livre est aussi la chronique d'une prise de pouvoir ? Lorsque vous racontez le moment où votre mère s'efface et où plus encore qu'avant, votre beau-père joue un rôle de premier plan, prend les décisions, instaure aussi un climat de confiance manifestement entre les enfants et lui.
Oui. Après, ma mère s'est effacée. Hein. Moi, j'avais une mère... d'une puissance intellectuelle, d'une tendresse, d'une... Je veux dire, elle était solaire aussi, hein, vraiment. Donc, elle aurait pu décider de ne pas partager le pouvoir. Elle lui a laissé la place.
Pour quelle raison, selon vous ?
C'est ce que vous disiez. Moi, je pense que les suicides de ses parents, ma mère, elle a pas supporté, quoi. La mort de sa mère, c'était pas possible pour elle. Bon, voilà. Moi, j'aurais aimé qu'elle se batte un peu plus. J'aurais aimé que... Mais après, quand on peut pas, on peut pas. Et elle, qui était très, très féministe, qui était... qui, moi, m'élevait. En plus, j'étais, à l'époque, sa seule fille. Il y avait plein de garçons autour de nous. Elle m'expliquait que, vraiment, il n'était pas question de laisser la place aux garçons dans le pouvoir. Bon... Là, je l'ai vue faire l'inverse de ce qu'elle avait professé, quoi, et auprès de moi. Et je pense que c'est un livre beaucoup là-dessus, si j'y réfléchis.
C'est aussi un livre sur votre mère, en réalité.
Bah, je crois que c'est un livre sur ma mère, en fait. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre pour... c'est ma manière de dire, c'est ma mère. C'est ma mère à moi.
Pourquoi ? Parce que vous aviez le sentiment qu'on vous l'avait enlevée, qu'on vous avait dépossédée de son image, ce qu'elle était réellement ?
Absolument. On a raconté n'importe quoi sur ma mère. Elle a laissé raconter n'importe quoi. En tout cas, c'était pas mon regard de petite fille, c'était pas mon regard d'adolescente, ni de jeune femme, ni de femme qui devient mère plus tard. Moi, et je pense que mes frères partagent ce point de vue-là aussi. C'était notre mère, et notre mère, elle a eu un chagrin immensissime. À la fin de sa vie, elle n'a fait que des mauvais choix. Et ce livre... il m'a permis d'être en colère contre elle.
D'être en colère contre elle.
D'être en colère contre elle et de l'aimer immensément. Voilà. Et c'était le deuil peut-être à faire, mais elle est morte. Je me suis mise à écrire, après avoir lu La Fabrique des pervers quand même. Et je me suis dit, mais en fait, elle aussi peut-être était sous emprise. Moi, je n'essaye pas de l'excuser, hein. Mais cet être solaire, ça a fonctionné sur tout le monde. Et elle est allée jusqu'à abandonner un peu ses enfants, quand même. Même beaucoup.
Même beaucoup, on va le raconter. Mais avant cela, page 99, il y a cette phrase que vous écrivez et sur laquelle j'aimerais que vous reveniez. « Le jour où ma grand-mère s'est suicidée, c'est moi que ma mère a voulu tuer. »
Oui. C'est-à-dire ? Je pense que... j'étais la fille, et je ne sais pas comment... Je ne m'exprime pas à la place de mes frères qui étaient là à l'époque. Mais j'étais la fille, et donc, y a comme une lignée de femmes, comme ça, et elles me regardaient en me disant « Tu vas être ma contrainte. C'est mon impossibilité de disparaître, c'est toi. » Parce que ce que je suis en train de vivre, je ne peux pas te l'infliger, et en même temps, je ne veux plus vivre. Et donc, je suis devenue... il aurait fallu que je n'existe pas, mais peut-être que mes frères ont vécu la même chose. Moi, par ailleurs, ce livre m'a permis de dire « je » et pas « on », ce qui était quand même...
Pour des jumeaux.
Pour les jumeaux, et puis aussi en incluant mon grand frère. Mais par rapport à... Parce qu'on partage l'amour de notre mère, vraiment, voilà.
Comment le silence, Camille Kouchner, s'est-il enraciné en vous ? Vous écrivez à plusieurs reprises, très doucement, silencieusement... Sans violence, comment le silence vient-il ?
Parce que personne ne vous pose de questions. Alors, c'est facile de se taire. En fait, c'est ça. Ça vient tout doucement parce que moi, je finis par aller très mal quand même. Physiquement, ça se voit que je vais mal. Psychologiquement, ça se voit que je vais mal. À l'école, ça se voit que je vais mal. Et puis, personne ne pose de questions. Donc, finalement, ce silence, il s'installe. Je pense que si on m'avait demandé, mais dis donc, il y a un truc qui ne va pas, ça aurait été plus difficile de me taire. Mais là, personne ne m'a demandé, quoi.
Qui aurait dû vous le demander ? Vos parents ?
Bien sûr, mes parents. Mes parents, bien sûr. Qui d'autre qu'eux ?
Les enseignants ?
Les enseignants, amis. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, je me souviens de... c'était en quatrième, après le suicide de ma grand-mère, ils ont convoqué ma mère. Ils lui ont dit, votre fille, ça va pas du tout. Ah, très bon résultat, mais elle a l'air trop triste toute la journée, quoi. Donc oui, les enseignants, ils l'ont fait. Après, moi, ma mère, elle était archi anti-psy, et elle m'a dit, écoute, tu m'emmerdes. T'as des bonnes notes, donc ça va. Bon, bah donc, c'était facile d'être silencieuse, quoi.
Quel rôle la volonté de votre frère, jumeau, qui est de ne jamais révéler l'affaire, joue-t-il dans la fabrique du silence pour vous ? À plusieurs reprises, hein, il dit, alors, page 116, j'en ai rien à foutre de ce con. Fais comme si de rien n'était. Fais-le pour Evelyne, votre mère. Lui aussi va se suicider, elle ne va pas le supporter. C'est un quasi-chantage au suicide qui se met en place.
Non, mais je pense que... Enfin, quand même, on était des enfants terrorisés, quand même. Mine de rien. Alors, encore une fois, c'est mon contexte. Ça ne veut pas dire que dans d'autres contextes, l'emprise ne prend pas. Mais nous, on s'est pris un suicide, deux suicides. Enfin, on a eu... Et une mère qui n'allait plus bien. Donc, mon frère, il voulait du calme, il voulait du silence. Après, si vous alliez le voir pour lui dire « Mais dis donc, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» il a fini par le faire, hein, mon frère. Il s'est pas emmuré dans le silence, mais en revanche, sa manière de se battre, de trouver du courage, c'était de travailler, d'aimer sa femme, de faire des enfants et de se construire une espèce de forteresse dans laquelle il voulait vivre, voilà. Et dans le silence, il voulait qu'on respecte son silence à lui. Mais il m'a fait aucun chantage, mon frère, aucun. C'est pas lui qui m'a fait.
Oui, c'est pas lui qui fait le chantage en l'occurrence. Ouais. Oui, bien sûr.
Vraiment pas. Il avait besoin pour trouver un équilibre et vraiment il a été courageux, il s'est construit, c'est un type super quoi. Il a eu besoin d'être dans le calme et dans le silence, ce qui n'était pas voilà moi au bout d'un moment c'était plus mon cas.
Et il a accepté de sortir du silence à travers, finalement, la publication de ce livre.
Je ne sais pas s'il a accepté de sortir du silence. C'est ça qu'il faut voir. Enfin, moi, je vois ça comme un cadeau. Il a accepté que je sorte du silence. C'est un peu différent. Il n'a pas accepté de sortir du silence. Puis encore une fois, je veux dire, nos amis qui ont fini par être au courant, etc., ceux qui étaient capables, et ce n'est pas péjoratif que quand je dis ça, mais ceux qui ont décidé d'aller le voir pour lui en parler, il en parlait facilement. Donc ce n'est pas un silence. Mais là, moi, il m'a dit, ma sœur, je comprends que tu aies besoin de ta place, de ton point de vue, d'en parler. Il n'a pas dit « Bon, ça y est, t'as raison, sortons du silence ». Pas du tout. Non, ça, c'est pas sa manière de faire.
D'autant que ce silence, effectivement, vous le racontez, ne dure pas, et y compris dans le milieu familial. 2008, donc bien longtemps après les faits, après la naissance de votre fils aussi, votre frère raconte l'inceste à votre mère. Comment réagit-elle ?
Je pense que là, c'est vraiment le tournant. Elle réagit, elle va voir sa sœur, ma tante, Marie-France. Et donc ça, bon, le premier réflexe d'aller voir Marie-France, c'est plutôt le réflexe d'archi-bon sens. C'est-à-dire que, voilà. Bon.
Et puis, racontez hein, à quel point les deux sœurs sont liées par une complicité, une tendresse, un amour, une fidélité quasi inébranlable.
Oui, oui, on est tous très, très collés, quoi. On vit tous ensemble, presque. On est
c'est la grande famille, c'est la famille à grande.
Voilà. Et donc, bon, bah, son réflexe naturel, c'est d'aller voir sa sœur et d'aller, d'une certaine manière, se réfugier chez... chez Marie-France. Et puis, elle trouve chez Marie-France assez peu d'empathie. Marie-France, elle lui dit « Ah, ça, c'est non. Non. Mmh. Voilà. Ce que tu me racontes, c'est impossible. » Donc, tu prends tes clics et tes claques.
C'est impossible, non pas que ça ait lieu, c'est impossible qu'on le tolère.
Ah oui, oui. Ouais. C'est impossible que tu viennes me dire que t'es mal. C'est pas toi qui es mal, ce sont tes enfants qui sont mal. C'est-à-dire que Marie-France, elle remet les choses à l'endroit, elle remet le monde à l'endroit. Elle a immédiatement cette puissance-là. Et puis, voilà, elle n'est pas clivée, Marie-France. Elle a... voilà, elle a évidemment ses peines, ses chagrins, comme nous tous, etc. Mais là-dessus, il n'y a pas de dualité possible pour elle. Elle entend ce que lui dit sa sœur, qu'elle aime beaucoup et que sa sœur aînée. Donc elle pourrait se laisser faire, etc. Elle sait que c'est mon frère et moi, ou là, en l'occurrence, c'est mon frère qui lui a parlé, qu'on n'est pas tellement des menteurs. Et donc, en deux temps, trois mouvements, c'est réglé pour elle. Et elle va essayer, voilà, d'accompagner ma mère dans les bonnes décisions et lui dire, écoute, tu peux pas rester avec quelqu'un qui a abusé de ton fils. Ça n'est pas possible. Voilà. Mais bon, ma mère l'a pas entendu.
Elle estime même qu'il n'y a pas eu viol.
Alors oui, non, elle a une certaine conception des choses, ma mère. Mais, et elle essaye de... C'est là aussi où l'emprise reprend le dessus. C'est-à-dire qu'elle essaye de nous convaincre que tout ça, c'est une histoire d'amour. Et que s'il y a quelqu'un qui a trahi, c'est mon frère. Et que elle nous a dit, moi je m'en souviens encore, elle m'a dit, je savais bien que vous alliez essayer de me voler mon mec. Alors ça, c'est bon, mais parce qu'ils se parlent ensemble et que la meilleure défense, j'imagine, c'est l'attaque. Et que donc on va tout défaire le monde, on va le remettre à l'envers et puis on va vous expliquer que vous, les enfants, êtes responsables et que vous êtes responsables de ne pas gérer vos désirs et vous êtes responsables d'aller tourner autour des adultes et après, de quoi vous plaignez-vous, quoi. En gros, c'est ça son idée. Alors moi, elle me dit, mais enfin, il n'a pas été forcé, mais enfin, il n'y a pas eu de contrainte, etc. Bon, bah, à partir du moment où votre mère vous dit ça, c'est voilà, moi j'y réfléchis beaucoup. Et c'est pour ça que le livre n'arrive pas tout de suite. Mais je me dis, mais pourquoi elle me dit ça? En effet, il n'a pas été forcé physiquement. Mais je crois que là, on touche à quelque chose. Alors, le livre de Vanessa Springora aussi, moi, ça m'a changé la vie, forcément. En plus, j'étais en train de finir l'écriture du mien et je me suis dit, ah bah, voilà. Je pense que là, ce dont on parle, enfin, si on reprend ce que m'a dit ma mère, c'est qu'elle confondait le désir et le consentement d'une certaine manière. C'est-à-dire que... Et je pense que c'est ça dans ce que j'ai compris du livre de Vanessa Springora aussi. C'est qu'elle appelle ça de manière magnifique le consentement, mais le désir, évidemment que le désir à l'adolescence, j'imagine, j'en sais rien. Et puis après, là, je parle absolument pas de l'histoire qui est arrivée à mon frère, parce que vu les conversations qu'on a eues, c'est plus compliqué que ça. Mais dire qu'un adolescent ne dit pas non... c'est oublier que c'est aux adultes de dire non, peut-être. Ma mère, elle l'a oublié. Bon, c'était peut-être utile pour elle de le penser comme ça.
Comment l'expliquez-vous? Vous me disiez tout à l'heure, c'est une mère formidable, c'est une mère tendresse, c'est une mère qui a fait du combat des femmes une priorité, qui vous a appris aussi un certain nombre de choses. Comment expliquez-vous cette position de votre mère sur ce sujet?
Bah, je ne l'explique pas vraiment. Surtout, la question que je me pose, c'est comment réagirait-elle aujourd'hui? Parce que hier, alors qu'on n'avait pas tous ces éclairages, on n'avait pas justement toute cette littérature, peut-être que voilà, elle s'est perdue dans une pensée complètement fausse. Aujourd'hui, est-ce qu'elle ferait résistance à cette pensée-là?
Grâce à la littérature, grâce aux livres qui ont été publiés.
Exactement. Est-ce qu'elle comprendrait aujourd'hui? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Plutôt que de me demander comment elle a fait pour passer à côté de ça, elle était tellement mal, ma mère, si vous voulez, que franchement, ça n'allait pas. Donc, elle était trop triste. Elle s'est perdue, quoi. Elle s'est perdue. Je pense qu'elle est morte de chagrin, ma mère. Elle est morte de chagrin parce qu'elle... Je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle avait fait à ses enfants. Peut-être que c'est une facilité pour moi de le penser. Peut-être que j'ai envie qu'elle ait, au dernier moment, eu conscience de ça. Mais je ne peux pas penser qu'elle ne savait pas. Voilà. Le mal qu'elle nous faisait.
Ça n'excuse pas. Vous avez lu ce livre de votre mère ?
Ouais.
Une question d'âge.
Ouais.
Publié en 2005,
ouais,
aux éditions Stock. À l'époque, vous avez 30 ans, Camille Kouchner. Mmh. C'est un livre dans lequel votre mère... Alors, il y a marqué roman sur la couverture, comme souvent sur des couvertures, mais il y a un avertissement dans lequel elle écrit ceci. J'introduis des éléments autobiographiques dans un récit fictif. Pas exactement fictif. Et alors, la lecture est glaçante, parce qu'évidemment, à la lumière de votre livre, il y a énormément de passages qui laissent au lecteur penser que tout est là, sous ses yeux.
Ça me fait plaisir que vous l'ayez vu.
Vous écrivez à un moment, rien n'est dit, tout est dit, rien n'est expliqué.
Ouais.
C'est ça, en fait.
Ouais. Ben oui, voilà, prends. Il faut savoir sans comprendre.
Mais c'est avant les révélations familiales,
oui,
de votre frère. C'est pour ça que vous écrivez, tout le monde savait.
Non.
Parce qu'il y a un livre avant, parce que... couvert de romans et de fiction, votre mère, d'une certaine manière, décrit les choses.
Là, on est. C'est quelle année, une question d'âge ?
2005.
Ah ben, c'est la naissance de ma fille. Moi, il me faut des petits repères, et ceux-là, ils sont importants.
Oui, bien sûr.
Non, quand j'écris, tout le monde savait, alors que ce soit clair. Quand je dis tout le monde savait, d'abord, il y a plusieurs cercles dans la famille. Il y a... franchement, les gens, pour moi, n'ont pas pu savoir avant 2008. Voilà, parce que 2008, c'est le moment où mon frère parle à ma mère, et puis ensuite, ma tante part en croisade. Voilà. Et elle dit, alors là... Moi, j'ai besoin de le dire, c'est pas possible, etc. En 2005, bon, à moins que ma mère s'en soit ouverte en particulier à d'autres, je vois pas comment. Mais là, elle l'a fait de manière plus générale. Mais personne n'y a vu que du feu. Moi, j'ai lu ça et je me suis dit...
Vous êtes dit quoi, exactement ?
Je me suis dit, la vache. Comme vous me posiez la question sur le silence qui s'installe lentement, bah c'est pareil, c'est-à-dire que le cerveau se referme. Je ne peux pas souffrir comme ça. Je ne peux pas me dire qu'elle a écrit ça. Je ne peux pas me dire qu'elle a écrit ça. Donc, je referme. Ça, j'ai eu plusieurs phases comme ça. Voilà. Et bon, c'est ma maman, quoi. C'est un peu dur.
Le tout le monde savait. C'est l'entourage. Alors, il faut que vous expliquiez peut-être, parce que tout le monde savait, écrivez-vous, et c'est la familia Grande. Jusqu'où était-elle grande, cette famille ? Jusqu'où y a-t-il une illusion, du reste, que cette grande famille se serrera les coudes, protégera ceux qui doivent l'être ? Et rappelons peut-être que dans une famille, ceux qui demandent à être protégés sont les enfants, d'abord.
Oui, alors... Bon, je pense que c'est un peu compliqué, parce que ce sont les enfants, sauf que là... donc cette famille, cette familia grande, en réalité, c'est, comme dirait ma mère, la famille qu'on se choisit, c'est-à-dire les amis très, très, très proches. Autour, moi, je m'en fiche un peu des gens. Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. C'est un peu spécial qui côtoie mes parents sans
c'est
demander...
Les adultes.
Voilà, alors, c'est les adultes.
Mais bon, voilà, ce sont les adultes.
Voilà.
Des adultes qui gravitent tous dans un milieu qui est d'abord, écrivez-vous, un milieu intellectuel. Et puis au fur et à mesure que les années 80 s'écoulent, vous avez 13 ans, 14 ans entre 1986-88... c'est au moment, je le rappelle quand même, de la première cohabitation, François Mitterrand, vous dites les ministres remplacent peu à peu les intellectuels dans ce grand phalanstère qu'est la propriété de votre beau-père à Sanary, dans le sud de la France. Quel contexte ? Que se passe-t-il ? À quoi ça ressemble, ces fameux étés à Sanary, qui sont si importants pour vous, puisque vous leur consacrez les 100 premières pages du livre ?
Mais alors, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur. Sanary, c'était le bonheur. Et c'est pas un grand n'importe quoi de mélange enfants-parents, etc. C'est pas ça que je raconte. Moi, ce que j'ai essayé de faire au cours de l'écriture de ce livre, c'est d'être à chaque fois d'avoir la voix qui corresponde à l'âge que j'avais à l'époque. Mmh. Et donc là, quand je raconte, j'ai peut-être 13 ans, mais avant 8, 9, 10, etc. Et je voyais ça, c'était un bonheur absolu. Et tous les gens qui avaient mon âge à cette époque vous diront qu'on a passé des vacances absolument merveilleuses avec des gens extrêmement stimulants. Voilà. Moi, je ne voudrais pas qu'on leur tombe dessus, parce que je pense qu'il n'y a qu'un seul coupable, en fait, qui a un esprit totalement dévoyé et qui a décidé de s'en prendre à mon frère. Le reste, c'était une liberté des enfants qui était fou de bonheur, une liberté des parents qui était extrêmement stimulant, mais il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté de quoi que ce soit à Sanary. Il y a un truc un peu foutraque, un peu... mais en revanche, l'ambiguïté, les choses un peu déconnantes, à chaque fois, c'est mon beau-père. C'est pas les autres.
C'est-à-dire, quand vous écrivez, par exemple, page 106, si à Sanary, certains des parents et enfants s'embrassent sur la bouche, mon beau-père chauffe les femmes de ses copains, les copains draguent les nounous, les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées, c'est... un contexte qui vous semble être innocent.
À l'époque, je me dis bon. Et puis, je vois rien de particulièrement grave, en fait. À ce moment-là, je me dis bon, bah, c'est joyeux et personne ne souffre. En réalité, je me rends compte des choses un peu... qui fonctionnent mal quand le malheur arrive. Mais tant qu'on est dans le bonheur, je ne me rends pas compte que c'est un peu spécial, quand même, comme ambiance. Voilà. Et après, bon, s'il y a des couples qui se créent, ça, c'est quand même pas condamnable. Je parle pas des enfants et des adultes. Hein.
C'est la question que j'allais vous poser, vous-même la posez. Mais est-ce qu'on fait ça à un enfant?
Ah oui, non, mais ça, la réponse est très claire, c'est non. Non, bien sûr que non.
Sur cette période, justement, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, que vous refusez de condamner, et vous avez raison, c'est un personnage, une personne en particulier. Est-ce que le mot de liberté, qui revient tout le temps dans le livre, il est permanent, on sent d'ailleurs que vous l'interrogez, ce mot. Que veut-il dire? Que signifie cette liberté que votre mère et votre père, de façon peut-être différente, voulaient à tout prix vous inculquer? Est-ce que ce mot de liberté a pu aveugler ceux qui, peut-être, dans l'entourage de votre beau-père, auraient pu vous protéger, pouvaient savoir, ou en tout cas se douter?
Je sais pas, mais c'est un contexte. En fait, ce que j'ai essayé de dire, puisque c'est l'époque où moi je suis adolescente ou enfant, c'est que c'est très facile pour un enfant de confondre les choses. C'est-à-dire que à cette époque, mes copains et moi, la liberté, elle passe par à peu près toutes les expériences. Donc, quand on est dans un contexte où il y a beaucoup de liberté, on l'interroge pas. Je pense que les adultes aujourd'hui doivent l'interroger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un adulte n'a pas le droit de faire un amalgame entre la liberté acquise et puis les abus qui peuvent avoir lieu sur des enfants. Ça n'a rien à voir avec la liberté. Ce que je dis dans le livre, c'est que moi, à cette époque, et c'est peut-être comme ça que le silence se crée, je ne sais pas trop ce qui se passe, en fait. Et la confusion, elle est dans ma tête. Alors peut-être que cette liberté, en effet, il aurait fallu mieux l'expliquer aux enfants.
Et vous êtes une enfant.
Et ben voilà.
C'est normal que vous soyez dans la confusion.
Exactement.
Un adulte, c'est quand même particulièrement quand il est un grand professeur de droit. Pose question tout de même, non?
Ah ben bien sûr. Non, bien sûr, je ne justifie pas du tout. Je dis juste que moi, je pense que cette liberté, elle a eu pour conséquence que moi, enfant, je n'ai pas pris la mesure de ce qui arrivait à mon frère. Mais c'était aux adultes de nous l'expliquer.
L'un des passages les plus forts de votre livre, Camille Kouchner, c'est l'hydre. c'est ce moment que vous racontez, que vous décrivez très très bien, le moment où l'hydre montre un nouveau visage. Elle est là, cette hydre, comme un serpent mythologique qui commence par vous broyer l'estomac, transformer votre corps, et puis qui tout à coup s'attaque à votre tête, à travers la culpabilité notamment. Page 124, il y a ceci, qui est peut-être la phrase clé de tout votre livre. « En ne désignant pas ce qui arrivait, écrivez-vous, j'ai participé à l'inceste. » Pire, j'y ai adhéré.
Bah ouais. Mais ça, vous avez mille fois raison de dire que ça doit être la phrase clé du livre, parce que moi, je vais le régler personnellement, cette histoire, c'est pas grave, mais si d'autres pouvaient l'entendre, peut-être ça ferait du bien à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il faut désigner les choses. Voilà, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Bah voilà, maintenant, il faut nommer les choses. Et moi, j'ai pas désigné les choses suffisamment tôt. Je le fais aujourd'hui, mais bon. Et en effet, ne pas désigner, c'est participer.
Vous vous sentiez coincé dans l'impossibilité également de désigner, ou est-ce qu'à un moment vous avez dit j'aurais pu le faire ?
Non, il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression que je pouvais le faire. Mais c'est l'emprise, ça. Il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression que je pouvais le faire. Et même quand... ma tante, donc on est tard, très tard, quand ma tante m'a dit « mais il faut que tu parles, parle, parle », je me sentais encore complètement coincée, alors qu'elle était là, elle était déterminée, puissante, et elle m'offrait de la protection, elle était là avec moi, quoi. Mais même là, je n'ai pas réussi.
Votre tante, Marie-France Pézier, disparaît quelques mois plus tard, en 2011. Suicide, accident.
Elle disparaît, en tout cas, elle n'est plus là.
Comment qualifiez-vous votre rôle dans cette histoire ? Témoin, complice, victime ? J'emploie ces trois mots parce que tour à tour, ce sont des mots qui se battent dans votre tête, y compris quand vous vous accusez d'être complice.
Oui, 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 non, mais ce livre, c'est un peu l'histoire d'un chemin, donc je suis passée par toutes ces étapes-là. Y compris par l'étape, je suis victime. Alors, victime comment ? Victime collatérale, victime indirecte, ou victime directe de mon beau-père, même si physiquement, il m'a rien fait, mais enfin, il m'a fait, moralement, quand même, il m'a fait beaucoup de mal. Oui, alors maintenant, j'aime à me dire que, grâce à ce livre, je suis peut-être une affranchie.
Comment se libère-t-on ? Comment s'affranchit-on, justement, de l'hydre ?
En écrivant ? Bah oui. Moi, j'ai fait du droit. J'aurais pu espérer que ce soit le droit. Mais c'est pas la voie, c'est pas la voie qui me libère. La voie qui me libère, c'est l'écriture.
Alors maintenant que vous avez écrit, qu'attendez-vous de cette publication, de la publication de La Familia Grande ?
C'est ce que j'écris, je crois, à la fin. C'est-à-dire que je parle pour mes cousins, que j'aime tellement. Je parle pour mes cousins, je parle pour mes enfants, je parle pour mes frères et sœurs. Et je leur dis, on a le droit de dire que c'était dur, quand même. Et on a le droit de dire ce qui s'est passé. Voilà. Et j'essaye de... Voilà, le message, c'est que, en fait, il n'y a pas une agression qui dure 5 minutes. C'est pas ça, l'inceste. L'inceste, ça ravage la famille. Voilà. Et donc, j'attends que ce livre fasse du bien à ma famille, j'espère, à celle que j'aime. Ma petite famille Rikiki. Et j'attends aussi que ce livre aide tous les cousins, toutes les tantes, tous les oncles, tous les... C'est-à-dire que, voilà, qu'on se retrouve un peu dans ce récit, ceux qui n'osent pas parler, voilà, que ça leur donne un peu des clés, qu'ils ne s'enferment pas dans la culpabilité, qu'ils ne s'enferment pas dans le... Et je dis ça et je sais que ce n'est pas facile. Hein. Ce serait rajouter une couche de culpabilité de leur dire « il faut parler maintenant ». C'est beaucoup moins facile que ça. Mais Voilà, j'ai vu ce que d'autres œuvres littéraires avaient eu comme conséquence sur moi. La Fabrique des pervers, encore une fois, ou alors Fugitive parce que reine. Cette manière d'avoir le droit d'aimer sa mère et en même temps de dire que c'est complètement déconnant, ça m'a libérée. Mais moi, ce sont toutes mes lectures qui m'ont aidée. Donc voilà, j'aimerais bien que ce livre fasse la même chose et que ce soit un public qui soit beaucoup plus large que le petit Saint-Germain-des-Prés, là, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, en fait. Hein.
Ça s'adresse à tout le monde,
ouais.
Me semble-t-il.
Oui.
Et pour votre beau-père ?
Mon beau-père...
Qu'attendez-vous ?
Mon beau-père, je l'ai mis dans ce livre, je voudrais qu'il reste dans ce livre. Mon beau-père, c'est mon beau-père. C'est très difficile... Le réel, là, la réalité, c'est très difficile parce que c'est mon beau-père. Voilà. Et c'est ça l'inceste, en fait. C'est que même au bout du bout, c'est difficile. Après, il a fait un truc qui est impardonnable. Impardonnable. Voilà. Donc, je ne lui pardonne pas. Donc, voilà, moi, j'ai eu à me taire pendant des années, pendant 30 ans de silence. Maintenant, je trouve que le silence, il est pour lui. Voilà. Et moi, j'ai eu à vivre avec cette réalité. Et il y a un moment où je me suis dit, OK, le droit ne me permet pas une condamnation. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je serais capable de le condamner via les voies juridiques, tellement le droit me fait peur. Mais c'est ma réalité depuis des années, la réalité de mes frères et sœurs, la réalité de mes cousins, la réalité de ma tante, etc. Et lui, depuis un moment, vit hors de cette réalité. Ça a l'air d'aller très bien, etc. Je trouve ça injuste, en fait. Donc voilà, on a une réalité qu'il est le seul à avoir créée. Il faut vivre avec, on va tous vivre avec, parce que nous, on ne peut pas nous retirer ça. Donc voilà, et ce n'est même pas une histoire de punition, c'est juste qu'ils entendent que c'est impardonnable et que ça va durer toute la vie. Et que là, maintenant, on est en train, nous, avec mes frères et ma sœur sans doute, d'en parler à nos enfants, d'essayer d'expliquer pourquoi parfois ça ne va pas, pourquoi, voilà. Mais que moi, c'est ce que j'ai dit à mon fils, je lui ai raconté l'histoire, parce que j'écrivais le livre, donc déjà ça a cette vertu-là. Et il a 12 ans, mon fils, et il m'a dit, ok, donc je me doutais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, puisque tu as été quasiment élevé par quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, donc il y a bien un truc qui... Voilà, mais donc maintenant, il va être condamné. Et je lui dis, non. Il m'a dit, ça, c'est pas possible, maman. Et il est monté dans sa chambre et il était effondré. Je venais de lui raconter un truc terrible. Là, il était resté. Et je lui ai ensuite dit, mais maintenant, c'est fini. On peut plus rien faire. Et alors, je lui ai expliqué la prescription et puis je lui ai dit, mais je vais écrire. Mmh. Voilà. Maintenant, il y a ce livre. Et ça lui fait beaucoup de bien, je pense, déjà. Qu'on reste pas emmuré dans le silence.
Non. Mais est-ce qu'un livre, finalement, parfois, n'est pas une prison aux barreaux plus solides que certaines prisons ?
C'est pour ça, vous avez raison, mais ça me fait plaisir. C'est pour ça que je vous ai dit.
C'est une question.
Je voudrais qu'il reste dans ce livre. Mmh. Voilà. Je voudrais juste qu'il reste dans ce livre.
Il y a beaucoup de choses dont on vient de parler. Je vous propose, Camille Kouchner, de marquer une pause et puis ces choses, de les reprendre et de les reprendre point par point, des choses sur la culpabilité, sur la psychologie, sur évidemment la punition, donc le système judiciaire, et puis sur l'époque et la société. On en parlera tout à l'heure avec la juge Marie-Pierre Porchy, avec la psychiatre et psychothérapeute Muriel Salmona, avec Marc Crépon, le philosophe, qui vont nous rejoindre dans quelques minutes, mais puisque vous avez parlé des livres et fait un bel éloge de ces livres, de ces essais, de ces écrits qui permettent ensuite de se mettre soi-même à l'écriture, Inès de la Motte-Saint-Pierre, qui, vous le savez, chaque semaine pousse la porte pour vous d'une librairie, a eu envie de vous proposer quatre livres qui marquent comme ça aussi des jalons sur cette question. Et elle s'est rendue à la librairie De la Main à Paris. C'est Mathilde Guiraud qui a choisi ces livres et qui vous dit pourquoi, voilà, il y a des livres qui parfois font bouger les lignes. Ça s'appelle « Le pouvoir des mots ».
Le choc, le premier, c'est l'inceste de Christine Angot en 1999. Puis une semaine de vacances quelques années plus tard, c'est la première fois qu'on nomme, qu'on décrit et qu'on écrit plus seulement sur l'inceste, mais qu'on écrit l'inceste. C'est un style qui est très brutal, très chirurgical, extrêmement ciselé. Elle écrit comme elle parle, avec beaucoup de colère, une colère qui est complexe, qui est dirigée à la fois contre elle, à la fois contre les adultes et contre l'ensemble de la société, mais aussi contre le lecteur, en lui disant « Tu veux la vérité ? La voilà, elle est toute nue. Et maintenant, qu'en fais-tu ?» La sidération, pour moi, c'est Féroce de Robert Goulrick, publié en 2010. Les Goulrick, c'est des princes, c'est des Gatsby des 50s, y a des fêtes, il y a de l'alcool, c'est très mondain. Et puis d'un coup, page 220, il y a une phrase qui nous arrive en pleine figure, qui plonge le lecteur dans un état de sidération. C'est un tour de force parce que Goulrick nous plonge exactement, j'imagine, dans l'état dans lequel il a été lui ce jour-là, le jour où son père a abusé de lui. C'est un homme de 60 ans qui écrit ce livre. Et il explique qu'il écrit comme un enfant brisé. Aux États-Unis, le livre s'appelle « The End of the World as We Know It ». Tout est dit. La déflagration, c'est le livre de Vanessa Springora, « Le consentement », qui est sorti il y a tout juste un an. « Le consentement », c'est l'histoire de Vanessa Springora, qui, à 14 ans, a été séduite par un écrivain quinquagénaire. On est à Saint-Germain-des-Prés, c'est le milieu littéraire de l'époque, et au nom d'une forme de liberté sexuelle, on se dit que finalement, après tout, une adolescente de 14 ans peut bien avoir une histoire d'amour avec un homme qui a plus de 30 ans de plus qu'elle. Il faut lire ce livre, parce que c'est un livre qui démonte avec beaucoup d'intelligence et de précision les mécanismes de l'emprise et qui nous explique comment on peut enfermer une jeune fille de 14 ans dans un piège qui se referme sur elle. Ce livre, en fait, est devenu, pour les lecteurs et les lectrices, moi je l'ai vu en librairie, un moyen de déclencher des débats, de libérer la parole.
Voilà, le pouvoir des livres, libérer la parole, déclencher des débats, et puis peut-être permettre à celles et ceux qui nous regardent d'écrire à leur tour. Je rappelle qu'un livre écrit n'est pas forcément à destination d'une publication, ça c'est autre chose, mais en tout cas, écrire et utiliser les mots. Camille Kouchner, donc toujours avec nous, et nous ont rejoint sur ce plateau. Muriel Salmona, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous êtes également la présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Alors vous avez publié, Muriel Salmona, de très nombreux ouvrages sur ce sujet, et notamment celui-ci, le livre noir des violences sexuelles. Il y a deux ans, vous l'avez réactualisé. J'ai eu le sentiment, en préparant cette émission et en le lisant, que la lecture du consentement de Vanessa Springora, la lecture, évidemment, de la Familia Grande de Camille Kouchner, vous permettrait peut-être d'en faire une troisième édition mise à jour, tellement cela va vite et heureusement. Marie-Pierre Porchy, bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir. Alors, vous, c'est particulier parce que vous avez été juge des enfants entre 1984 et 1986, mais aussi vice-président du tribunal de grande instance de Lyon, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention. Et vous êtes aujourd'hui...
Retraité,
oui, on dit ça comme ça. On vous doit un livre formidable, mais hélas épuisé. Alors, il date de 2003, il s'intitule « Les silences de la loi », dans lequel vous rappelez notamment que la loi doit assurer une protection totale de l'enfant. J'espère très sincèrement que vous aurez l'occasion de le rééditer et surtout de l'actualiser, parce qu'il est passionnant, ce livre. Et puis Marc Crépon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, philosophe, vous dirigez le département philosophie.
Je l'ai dirigé.
Ah, vous l'avez dirigé, voilà. À Normalsup.
Exactement.
Voilà, et on vous doit plusieurs essais, sur la violence notamment, mais le dernier est publié il y a quelques semaines, hein, c'est un hasard du calendrier, chez Rivage, s'intitule « Ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires de mœurs ». J'ai envie d'avoir d'abord votre réaction et votre regard à la fois sur la Familia Grande, le livre, et sur ce que Camille Kouchner a dit ce soir, et qui est peut-être d'ailleurs la postille à son livre. Muriel Salmona, je me tourne vers vous parce que Camille Kouchner a pu dire dans certaines interviews déjà que vos livres faisaient partie, avec celui de Sophie Chauveau, avec celui de Vanessa Springora et tant d'autres, de ceux qui lui avaient permis d'écrire. Quel regard portez-vous sur ce livre ?
Alors, en tout cas, déjà, ça me touche beaucoup. Et puis, je suis très émue aussi. J'ai été très émue de lire votre livre. Et puis surtout, la première réaction que j'ai eue, c'est que C'était vraiment assez extraordinaire parce que ça va permettre encore de libérer encore plus la parole, de légitimer encore plus le fait que les victimes de ces violences puissent dire les choses, les dénoncer, puissent les comprendre.
Quand vous dites encore plus, pardonnez-moi, c'est parce que c'est un livre de plus ou c'est parce qu'il vous semble apporter quelque chose de nouveau ?
Alors, il y a quelque chose de nouveau parce qu'il y a vraiment tout un... Il y a beaucoup de choses très universelles dans ce livre qui sont révélées. Il y a aussi le fait que vous êtes la porte-voix aussi de votre frère. Il y a toute la réaction médiatique autour de ce livre. Et du coup, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que tout se lézarde. Le système vraiment pédocriminel, qui a été extrêmement toléré, malheureusement, est en train de se lézarder. Et on voit que ça fait des ondes de choc. Et j'espère vraiment que ça va continuer. Et que du coup, grâce à toutes ces...
C'est-à-dire que, pardonnez-moi, est-ce que je résume correctement en disant que pour vous, une œuvre littéraire doit devenir une affaire de société ?
Oui, enfin, je veux dire, ça dit la société. Une œuvre littéraire, ça révèle des vérités. Donc là, ça lève vraiment un voile très, très important.
Avec des conséquences. On l'a vu, alors aujourd'hui, il y a quelques heures, on a appris la démission de Marc Guillaume, l'ancien secrétaire général du gouvernement, mais qui était un proche d'Olivier Duhamel, la démission d'Elisabeth Guigou, qui avait été nommée il y a à peu près un mois, je crois, à la tête de la commission... dont vous allez me rappeler le nom exact. Parce que...
La commission Guigou, c'est la commission, effectivement, de lutte contre les violences, sur l'inceste, sur les violences sexuelles dans l'enfance. Non, là, ça arrive à un moment donné où, effectivement, il y a eu plusieurs vagues successives. Ça a commencé avec MeToo, il y a eu plusieurs vagues successives. Il y a eu, effectivement, Vanessa Springora, il y a eu Sarah Abitbol, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est joué dans cette prise de conscience. Et là, on arrive à un moment donné où, effectivement, il y a une tolérance qui s'effondre. Et il y a vraiment une réelle dénonciation, enfin, de ces violences à hauteur de la réalité de ce qu'elles sont, de la gravité de ce qu'elles sont, des conséquences qu'elles peuvent avoir et de la nécessité, effectivement, d'ouvrir les yeux, de protéger les enfants et surtout d'arrêter de maltraiter les victimes et de leur faire subir des injustices sur injustices sur injustices. Enfin, quelque chose qui fait que la cause des victimes devient vraiment un réel, disons, combat pour un peu plus de monde, enfin quasiment presque tout le monde.
La tolérance qui s'effondre, Marc Crépon, ça c'est le sujet en réalité de votre livre. On va y revenir dans un instant. Qu'avez-vous lu de neuf dans le témoignage et la manière dont il était livré par Camille Kouchner dans La Familia Grande?
Alors, ce que je trouve, c'est un livre qui m'a beaucoup touché, que j'ai lu avec un immense intérêt et avec une très grande émotion. Je trouve que ce que fait apparaître ce livre avec une très très grande force, c'est un contraste d'époque. C'est-à-dire qu'en même temps, les années 70-80 sont des grandes années de libération de la sexualité. Et ce livre porte vraiment la marque, cette histoire la porte la marque de cette libération de la sexualité. Mais elle a entraîné, cette libération de la sexualité, une terrible confusion. C'est-à-dire que c'est une chose que la sexualité se libère, et c'était sans doute une très bonne chose, et c'était sans doute une nécessité. Mais ça n'est pas pour autant que ça donnait des droits aux adultes sur la sexualité de leurs enfants. Et ça n'est pas pour autant que ça investissait les adultes de quelques droits que ce soit pour initier leurs enfants à la sexualité. Et donc c'est toute cette contradiction que porte le livre, et je trouve que il la montre à travers toute cette première partie, même à Salary, à travers toute l'évocation de cette ambiance joyeuse, de ce monde joyeux. Il montre très bien le contraste entre la liberté et puis le crime, et la confusion sur la liberté, portant, justifiant, légitimant une agression qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et puis l'autre... chose que je trouve évidemment remarquable dans ce livre, et là je vais rejoindre ce que disait Muriel Salmona à l'époque, à l'instant, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans une époque qui montre, qui marque un recul considérable du seuil de tolérance quant à, aux abus sexuels. Et c'est vrai que c'est un livre qui contribue à mettre en évidence l'extraordinaire complaisance, peut-être le mot de complicité serait trop fort, mais en tout cas complaisance de toute une génération à l'égard de ces abus-là qu'elle ne voulait pas voir, dont elle ne voulait pas mesurer la gravité et dont elle ne voulait pas comprendre surtout que c'était avant tout une violence qui était faite à ceux qui subissaient ces agressions.
Oui, je me tourne vers, vers la juge. Là, beaucoup de choses viennent d'être dites, mais comment justement faire en sorte que la liberté et le crime soient totalement dissociés? C'est aussi une question que vous posez dans votre essai, Marie-Pierre Porchy.
Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense que c'est un peu la question fondamentale. Et dans votre livre, alors évidemment, moi, je ne suis pas du tout là pour parler de l'affaire judiciaire, puisqu'elle est en cours, il y a une enquête, donc il n'est pas question de parler de ça. Mais ce que vous dites dans votre livre est très intéressant au départ. C'est que vous dites, notre beau-père nous apprenait que ce qui était défendu et ce qui était permis relevait de la sphère privée. Alors ça, c'est extraordinaire, je trouve. Ça, c'est le nœud, à mon avis, du problème. C'est-à-dire que, pour un professeur de droit, de dire que la loi relève de la sphère privée, c'est quand même une grosse, grosse ambiguïté qui pose problème. Je trouve que la question de la liberté et la question de l'interdit, qui n'est pas l'interdit moral, qui est l'interdit fondamental, posé normalement de façon universelle par l'interdit de l'inceste, alors que c'est une infraction universellement constatée dans le monde entier.
C'est les structures élémentaires de la parenté,
voilà,
depuis toujours.
Les Vistros
a quand même écrit un certain nombre de livres là-dessus, Françoise Héritier aussi.
Enfin, exactement.
On ne comprend même pas que ça puisse être discuté.
Voilà.
Vous avez raison de rappeler, parce que chez vous, Camille Kouchner, vous insistez là-dessus aussi, dans votre livre, ça n'est pas moral, ce n'est pas une condamnation morale, c'est légal.
Bah oui. Je crois que c'est très important de le dire, qu'on n'est pas, quand un enfant est dans la réciprocité sexuelle, on ne peut pas évoquer la spirale de la moralité qu'on brandit, etc., comme on peut estimer d'ailleurs le brandir à juste titre quand deux adultes sont dans une relation sexuelle. Quand il y a un enfant, je crois d'ailleurs qu'au niveau de la prévention, je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir le dire aux agresseurs, prévention qu'on fait trop à l'égard des enfants et pas assez à l'égard des agresseurs, je pense, de dire que le consentement d'un enfant, ça n'existe pas. Et dans la réciprocité sexuelle, une relation sexuelle avec un enfant n'est jamais négociable. Jamais. Jamais négociable. Et c'est vrai que ce qui pose problème actuellement, ce qui posait problème il y a 15-20 ans, mais ce qui pose encore problème, c'est que tout est régi par une loi où il faut passer par contrainte, violence, menace, surprise.
Et dans laquelle, si vous me permettez, il faut prouver, l'enfant doit prouver le non-consentement.
Voilà. Alors, en réalité, pas tout à fait, parce qu'il y a eu des évolutions dans la loi. La loi a quand même pris conscience qu'on peut évoquer la contrainte morale. Dans le cadre de la contrainte morale, on n'est pas obligé de l'invoquer. On peut évoquer l'âge de l'enfant et le rapport à son agresseur, à savoir le lien d'autorité ou le lien filial. Mais je ne comprends pas comment, aujourd'hui, on ne peut pas arriver à dire une relation sexuelle avec un enfant est punie de.
Qu'est-ce qui bloque?
Je ne sais pas ce qui bloque.
Quel est le verrou, Marc Répond?
Mais je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure, tout simplement, de la violence que représente cette agression-là. On voit bien quand même, quand on lit le livre de Camille Kouchner, comme aussi celui de Vanessa Springora, pour moi c'est très émouvant, le livre que je viens d'écrire a été encadré d'abord par la lecture du livre de Vanessa Springora, qui a été déterminante, et puis par celle de Camille Kouchner. Et ce qu'on voit très très bien, c'est la très très grande difficulté de toute une génération à comprendre quand même que derrière l'inceste, il y a une véritable agression, que c'est une violence, que ça détruit la confiance qu'on a dans son propre corps, la confiance qu'on a dans son entourage, la confiance qu'on a dans ses proches, la confiance qu'on a même dans le temps et dans l'espace, que ça vous réduit à l'état d'objet. Et donc, c'est la mesure encore de cette grande violence-là qui n'a pas été complètement prise. Et moi, je pense aussi, effectivement, que lorsqu'on suppose un consentement de la part de l'enfant, on oublie tout simplement qu'un enfant a très, très rarement les moyens et psychologiques et physiques tout simplement de dire non, et qu'il y a des phénomènes d'emprise, des phénomènes de domination, et que avant même que l'acte ait été commis, il est déjà dans la violence, que le pseudo-consentement, c'est déjà une violence parce que c'est déjà l'effet d'une domination.
Muriel Salmona.
Oui, voilà. Donc, effectivement, il s'agit de domination, il s'agit de soumettre, il s'agit de détruire, il s'agit de dégrader. Hein, la Cour européenne dit que ce sont des actes dégradants, inhumains et extrêmement violents, enfin, cruels même, et que de plus en plus, dans le cadre international, on parle de torture. En fait, il y a vraiment eu un déni de la réalité de la violence qui est exercée
Vous parlez d'une société du déni.
Voilà, c'est une société du déni, d'une société de culture du viol, c'est-à-dire qu'on met en cause les victimes, c'est-à-dire qu'on va aller étudier le comportement de la victime, considérer que c'est une victime qui fabrique un agresseur, alors que ce sont des agresseurs prédateurs qui fabriquent malheureusement énormément de victimes. Et donc, il y a, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les violences sexuelles sur les enfants. C'est donc des atteintes à la dignité très graves et une instrumentalisation de l'enfant. C'est exercé toujours dans le cadre d'un rapport de force, de domination. Et malheureusement, c'est le discours dominant qui l'emporte. C'est pour faire contre pot de terre.
Alors là vous, Marc Répond a peut-être raison de signaler que le discours dominant est en train de changer. Manifestement, non seulement la honte change de camp, mais le discours dominant peut devenir peut-être aussi celui du récit. Du temps du livre, du temps du témoignage. Quand vous dites alors, on n'a peut-être pas assez pris la mesure, est-ce que, une fois que les psychothérapeutes, les psychiatres comme vous, les philosophes comme vous, Marc Répond l'ont dit, ça n'est pas au temps de la justice d'intervenir? Ne faut-il pas, si une loi est mauvaise, ou en tout cas si elle n'est plus adaptée à son époque, qu'elle change?
Alors moi, ça me paraît évident depuis toujours. Depuis 20 ans, je m'interroge et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne sépare pas l'inceste de tout l'arsenal législatif qui concerne les autres agressions sexuelles, violences contraintes, menaces surprises, sachant qu'en plus, on attend beaucoup de la justice, alors évidemment, d'étudier si les faits existent vraiment, ça c'est le premier travail, mais au surplus, lorsque la victime vient devant la justice et qu'on se rend compte que les faits ont vraiment existé, la victime attend de la justice la remise en cause des responsabilités et de la culpabilité. La victime a toujours une responsabilité psychique. Hein, les psys l'ont beaucoup, beaucoup démontré.
C'est quoi une responsabilité psychique?
Une culpabilité psychique.
Ah oui,
excusez-moi.
Culpabilité.
Une culpabilité psychique. Que la loi...
On est en direct, hein, on ne peut pas refaire la prise, mais on est bien d'accord. Il n'y a pas de responsabilité psychique. C'est une culpabilité.
Voilà. Et justement, j'anticipais en fait sur ce que j'allais dire après. Et cette culpabilité-là, elle devrait changer de place. Et la loi est tellement nocive qu'elle renvoie sans cesse à l'enfant que la loi, son consentement doit être examiné dans l'acte. Mmh. Et d'ailleurs, vous savez, les premières personnes qui comprennent extrêmement bien comment fonctionne la loi, ce sont les agresseurs eux-mêmes. Lorsqu'ils arrivent dans notre bureau, après 48 heures de garde à vue, la première chose qu'ils disent quand ils reconnaissent les faits, c'est « mais il était d'accord ». Voilà, ça c'est la première chose qu'on entend. Donc ce consentement-là ne devrait jamais être examiné, parce que c'est l'état d'enfant qui interdit justement de pouvoir s'opposer à un rapport sexuel. On le voit bien dans ce que vous dites dans votre livre.
Et que vous écrivez, hein, page 167, il y a une page et demie qu'il faudrait d'ailleurs faire lire à tout le monde et inscrire peut-être au frontispice de certains édifices et institutions judiciaires, qui sait. Muriel Salmona et ensuite Marc Répond.
Ce que je voulais dire, c'est que là, on est dans une situation d'impunité quasi totale. C'est moins de 1% des pédocriminels qui vont être jugés
pour moins de 1%.
Moins de 1%. Donc ça, en plus, c'est vraiment, on a les chiffres d'Infostat Justice, on a tous les chiffres. Donc, et que du coup, cette impunité fait qu'il y a énormément de pédocriminels qui sont en libre circulation, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un enfant, une fille sur 5 et un garçon sur 13 qui subissent des violences sexuelles dans l'enfance. Donc c'est énorme. Et du coup, c'est eux qui imposent aussi leur propagande. C'est eux qui imposent cette culture du viol. Alors, cette culture du viol, elle peut être sous couvert de liberté sexuelle, mais elle peut être aussi sous couvert de tas d'autres choses. Hein. Ça peut être aussi...
Et dans tous les milieux.
Voilà.
Et
ça peut être sous couvert là aussi d'affection, ça peut être sous couvert d'éducation, ça peut être sous couvert de soins. Donc, ce n'est pas uniquement cette période de... libération sexuelle, c'est-à-dire que ça, il y a toujours les pédocriminels s'adaptent à toutes les générations et à toutes les situations. Il y en a pas moins.
Selon vous, Muriel Salmona, qu'est-ce qui peut les arrêter? Je ne dis pas les dissuader. Parce qu'on rentrerait dans la tête de l'agresseur. Non. Vous l'avez fait d'ailleurs dans votre livre et c'est glaçant. Et alors là, ce que vous avez fait, oui, Marie-Pierre Porchy, parce que vous allez voir. Vous racontez que vous essayez de comprendre ce qu'est le profil psychologique d'un agresseur. Et vous comprenez très vite qu'en réalité, il n'y en a pas. Malheureusement, ce n'est pas comme le serial killer et ça peut être n'importe qui. Vous racontez également ce que vous voyez quand vous allez suivre ceux qui furent des agresseurs. Et alors, c'est tout à fait édifiant et terrifiant. Mais qu'est-ce qui peut arrêter ?
Alors, la lutte contre l'impunité est extrêmement importante. Donc déjà, il faut changer la loi. Effectivement, il y a la notion de seuil d'âge du non-consentement, il y a la notion d'imprescriptibilité. Il y a pas mal de choses à changer, et puis tous ces classements sans suite, ces déqualifications. Mais il y a aussi ne pas laisser les victimes seules à devoir survivre aux violences qu'elles subissent et à devoir survivre ensuite aux conséquences psychotraumatiques gravissimes qui les mettent en risque de subir des violences sans fin. Donc il faut faire un dépistage systématique, il faut aller poser la question, il faut que tout le monde pose la question tout le temps aux enfants.
Une fille sur 5, un garçon sur 13.
Mais il faut la libérer. Les enfants, ils ne peuvent pas parler. Toutes les raisons, ils sont en plus hyper traumatisés, ils sont sous manipulation, sous menace, ils ont cette honte et cette culpabilité qui est complètement organisée par le système agresseur. Donc il faut aller vers eux pour légitimer leur parole. C'est pour ça que votre livre sert à cette légitimation, et la réception de votre livre va aussi permettre aux enfants de se sentir, enfin en tout cas à toutes les victimes, d'avoir l'impression de moins risquer de subir des retours avec des mises en cause et des injustices sans fin.
Et même au-delà de ça, si je peux rajouter quelque chose, avant même d'avoir peur de la mise en cause, etc., c'est être responsable de détruire le paradis. Quand on parle, on détruit le bonheur des parents.
Oui, elle vient de là, elle est là, la racine de la culpabilité.
Ah bah, non, ça c'est une fois qu'on parle.
Oui.
Ça c'est une fois qu'on parle. Une fois qu'on parle, j'en discutais avec Andréa Bescon qui disait, mais moi, je venais de déménager, mes parents étaient heureux, c'était une nouvelle vie qui s'organisait, ce nouveau copain qui arrive, etc. Je pouvais pas dire, non mais attention, là il y a quelque chose qui va pas du tout. C'est-à-dire qu'on devient responsable en parlant, de détruire un paradis.
C'est
très culpabilisant.
C'est la valeur des adultes qui est mise en scène comme étant beaucoup plus importante que les enfants. Et que la frustration, les problèmes que pourraient avoir les adultes, ça n'a rien à voir avec la souffrance terrible des enfants qui sont saccagés.
Et donc c'est ça qu'il faut dire aux enfants. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous.
Il faut remettre le monde à l'endroit là-dessus.
Remettre le monde à l'endroit. Tu ne détruis pas mon paradis, c'est moi qui dois organiser ton paradis.
Voilà. Et ça, les enfants ont des droits, ils ont le droit aussi d'être pris en charge, soignés, d'avoir accès à la justice.
Marc répond.
Oui, je pense que pour que le seuil de tolérance d'une société donnée à une forme de violence, comme ici les abus sexuels, et en particulier les abus sexuels commis sur les enfants, se déplace, pour que ce seuil se déplace, il faut trois choses. Il faut des voix singulières, et c'est là que la littérature est importante, et c'est là que des livres comme celui de Camille Kouchner, ou comme celui de Vanessa Springora avant, sont importants, parce que ce sont des voix singulières, souvent ce sont des voix de victimes, ou de voix qui permettent que les choses soient appelées par leur nom, qui permettent véritablement de dire, eh ben, un inceste, c'est une agression, un inceste, c'est une violence, un inceste, c'est un viol. Il faut ensuite
Des voix, et d'ailleurs, quelles qu'elles soient, vous mettez le roman, l'expression artistique également, au nombre de ces voix.
Oui, je pense que ça peut y contribuer, film, le roman artistique, des voix singulières, des œuvres, des textes ou des films qui permettent de rendre visible l'invisible.
Ça, c'est la première chose qui permettrait de faire bouger la société. La deuxième...
chose, et on l'a vu, c'est vraiment ce qu'on vit en ce moment, c'est indispensable, ce sont des grands mouvements d'opinion, des mouvements associatifs. Le mouvement MeToo, c'est ça qu'il a permis de faire, effectivement. Et puis, troisièmement, il faut évidemment le travail du législateur. Et quand ces trois forces-là sont réunies, effectivement, le seuil de tolérance d'une société commence à se déplacer. Et les deux premiers, pourquoi ils sont très, très importants ? Parce qu'ils permettent, dans le fond, et là, on revient à ce dont vous parliez, que la honte change de camp. Et ce changement de camp de la honte, il ne peut se produire que par ce travail sur le langage qui permet d'appeler les choses par leur nom et de les montrer et de les rendre visibles. Là où jusqu'à maintenant, la société ne savait pas ou ne voulait pas les voir ou en tout cas ne voulait pas les imaginer à leur degré de gravité. Moi, quand j'ai écrit ce livre, il y a une chose qui m'a sidéré. Évidemment, j'en parlais autour de moi à des étudiants, des étudiantes, à des amis. Et je n'avais pas... Et ce qui m'est revenu, c'est un nombre d'histoires incroyables. C'est-à-dire, j'ai été surpris de voir beaucoup de gens que je connaissais depuis longtemps me raconter que, oui, dans leur famille, il y avait une affaire d'inceste. Que, oui, elles avaient connu ça dans leur enfance. Oui, il avait connu ça dans son enfance, pour lui ou pour un proche.
Cela dit, vous venez de le dire, c'est aussi...
C'est un véritable fléau.
Mais c'est aussi ce que racontait Camille Kouchner. C'est-à-dire que si vous ne posez pas la question, les gens ne parleront pas.
Oui, alors là,
est-ce que ça ne veut pas dire également qu'il faut trouver le moyen de faire en sorte que les uns les autres posent davantage la question ?
Là, c'est venu souvent, en fait, spontanément. Il y avait le contexte de ce travail dans lequel je m'étais engagé. Je discutais avec les uns les autres. Et à ce moment-là, effectivement, la parole se libérait. Et ce dont j'ai pris conscience, et je ne l'avais pas avant d'écrire ici, c'est à quel point l'inceste est un fléau beaucoup plus répandu qu'on ne le pense dans la société. Là où on voudrait croire que c'est absolument extraordinaire, en réalité, c'est beaucoup plus répandu et beaucoup plus ordinaire qu'on ne le pense.
Les chiffres, vous les donnez,
Amélie? Je vais vous donner une famille sur dix. Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, les enfants sont les principales victimes de violences sexuelles, particulièrement les filles, 80% de filles, 20% de garçons, la moitié de ces enfants victimes de violences sexuelles sont victimes de violences sexuelles incestueuses à l'intérieur de leur famille, que c'est effectivement donc une fille sur cinq, un garçon sur 13, que c'est, par exemple, pour les viols, donc les crimes les plus graves, c'est 135 000 filles et 35 000 garçons qui subissent des viols ou des tentatives de viols chaque année. Donc c'est énorme. Sur l'ensemble des violences sexuelles, pour 81% des violences sexuelles démarrent avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. C'est-à-dire que la majorité des violences sexuelles qui sont subies par les enfants, c'est avant l'âge de 10 ans. Donc c'est des chiffres énormes qui ont été masqués, il y a eu vraiment une chape de déni. Il y a eu le fait aussi que ces victimes-là, vous savez, les violences s'exercent toujours dans un rapport de force sur des personnes qui ont moins de valeur dans le cadre de la société à un moment donné. Donc les enfants, les droits des enfants sont moins respectés, le droit des filles c'est encore pire. Et puis aussi les enfants handicapés qui subissent quatre fois plus de violences sexuelles et tous les enfants en situation de vulnérabilité. Et là, votre situation aussi, justement, les violences ont démarré à un moment de vulnérabilité. Voilà, où il y a effectivement une situation où il y a personnes sont soit moins protégées, soit...
J'aimerais, parce que Marc Répond disait tout à l'heure, il y a trois piliers pour que les choses changent. Le troisième, c'est l'institution judiciaire, c'est la justice. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, aborder la question de la prescription avec vous, Marie-Pierre Porchy. Vous êtes très dur avec l'institution judiciaire dont vous étiez pourtant la représentante en tant que juge. Mais vous dites que vous n'êtes pas en faveur de l'imprescriptibilité. Ouais. Pour quelles raisons ?
Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat autour de ça. Moi-même, je ne suis pas... J'ai évolué un peu dans mes conceptions. D'abord, je pense que... pour que la justice puisse travailler, il faut qu'elle puisse véritablement vérifier un certain nombre de choses. Quand 40 ans après, vous demandez de vérifier les lieux n'existent plus, les témoins n'existent plus, les gens sont morts. Donc on va décevoir beaucoup de victimes. Est-ce que c'est l'équivalent d'un crime contre l'humanité? Moi, je pose simplement
la question. Aujourd'hui, le crime contre l'humanité est imprescriptible. Voilà. C'est le seul
qui
est imprescriptible en France, oui.
Est-ce que la mort, le meurtre, l'assassinat, ne devrait pas, à ce moment-là, bénéficier du même délai de prescription? Voilà, je pose la question. Je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre autour de ça.
Mais je vous sens vaciller par rapport à ce que vous écriviez en 2003, oui. Où vous étiez plus radical.
Voilà.
Contre. Oui, effectivement.
J'étais assez contre.
Aujourd'hui, un petit peu moins.
Bah, peut-être aussi parce que j'ai été en charge de dossiers avec des prescriptions longues déjà, hein, puisqu'il y a eu 10 ans, puis 20 ans. Et je peux vous dire que remonter un dossier qui s'est commis 20 ans avant, c'est quasiment mission impossible.
Certes, mais vous savez aujourd'hui qu'il y a des historiens qui font un travail admirable, oui, précisément, oui, sur la mémoire, qu'il y a des journalistes qui le font, qu'il y a aussi, oui, Camille Kouchner le montre bien en allant chercher dans ses propres souvenirs. Vous avez beaucoup écrit sur la mémoire traumatique,
oui, oui,
qui se libère,
oui,
des années, oui, plus tard, et parfois après 30 ans. Or aujourd'hui, c'est quoi? C'est 30 ans, hein, la prescription?
Oui, c'est 30 ans après non la majorité.
Après la majorité de la victime.
Mais voilà. Très honnêtement, je pense que c'est un débat de société, ça.
Muriel Salmona, parce que vous êtes très active en faveur.
Suivant les études statistiques et les enquêtes, c'est 70 à 80% de l'ensemble de la population française qui serait pour l'imprescriptibilité. Déjà, petit 1. Le Parlement
Ça veut dire que c'est un tribunal populaire, alors?
Non, c'est parce que c'est un changement. On parlait de débat de société, donc je réponds au débat de société. Le Parlement européen a voté une résolution pour exhorter les États européens à justement voter une imprescriptibilité.
Quel est, indépendamment de l'avis, quel est l'argument qui, pour vous, vous semble être le plus fort en faveur de ce refus de la prescription?
Bah, parce que à partir du moment où tout est organisé pour faire taire, pour bâillonner les victimes, pour les empêcher d'accéder à des soins aussi qui permettraient d'ouvrir une parole, on peut peut-être en parler, pour que la justice soit si difficile, il y a moins de 10% de victimes qui portent plainte, à partir du moment où c'est la société qui empêche les victimes de pouvoir être secourues, protégées, soignées et de pouvoir porter plainte, à ce moment-là, je veux dire, il n'y a aucune raison de les empêcher de pouvoir justement porter plainte. Et puis, les traumatismes génèrent des états dissociatifs. C'est le cerveau, en fait, qui fait disjoncter, qui disjoncte pour sauvegarder la personne, pour, en fait, permettre de survivre. Donc, on est anesthésié émotionnellement et on a très peu accès à ses souvenirs et très peu accès aussi aux émotions qui s'y rapportent. Donc du coup, on est en très grande difficulté. Ça peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On se retrouve avec des affaires comme le Squarneck, où vous avez, avec un même agresseur et des mêmes faits, des victimes pour lesquelles les faits sont prescrits et d'autres pour lesquelles les faits ne sont pas prescrits. Ça ne se justifie absolument pas.
J'aimerais avoir votre avis, Camille Kouchner, parce que j'imagine que c'est une question à laquelle vous avez réfléchi dans l'écriture du livre. Vous le dites à un moment, vous l'écrivez, hein, 20 ans, c'est ce que tu aurais pris.
Ça, c'est la peine encourue.
Oui.
Mais
20 ans, c'est ce que tu aurais pris, ouais. Conditionnel.
Enfin, au conditionnel, évidemment, puisque moi, je ne suis pas juge, ce n'est pas moi qui alloue les peines, mais c'est très difficile. Je ne sais pas quoi répondre exactement parce que je pense que c'est une réflexion globale qu'il faut avoir sur la prise en charge judiciaire, juridique, spécifiquement de l'inceste. C'est-à-dire, on doit réfléchir non seulement à la question de la prescription, mais aussi à la question de la peine et aussi à la question de la preuve, etc. C'est-à-dire qu'il faut tout mettre à plat. Pour moi. Et s'axer uniquement sur l'imprescriptibilité, même si je pense qu'en effet, il y a quelque chose d'extrêmement spécifique avec la mémoire traumatique. On ne se souvient pas, ou on se souvient mal, ou on se souvient en se disant ouais, c'est pas grave jusqu'au jour où on se dit mais en fait, si, c'est très très grave, etc. C'est-à-dire que le point de départ de la prescription, il est à 18 ans, plus 10, plus 20, plus 30, on ne sait pas trop pourquoi. Donc j'ai l'impression que rien n'a été réfléchi en réalité. Donc voilà, c'est ce que je 20 ans aujourd'hui pour quelque chose qui s'est passé il y a plus de 30 ans, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'il faut réfléchir à la peine aussi. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, juste pour les victimes, c'est la confrontation. C'est-à-dire que peut-être les preuves sont très difficiles à rapporter, etc. Mais ceux qui ont besoin et envie d'une confrontation, je trouve ça difficile et injuste de ne pas la leur donner.
La confrontation avec l'agresseur.
Absolument.
Je pense que
alors,
je
très vite, parce qu'on arrive à la fin de cette émission en direct.
Je pense qu'il y a un mot qui n'est pas, pratiquement pas encore apparu dans notre débat et qui est crucial pour comprendre tout ça, c'est le mot « famille ». C'est-à-dire, je pense que ce qui pèse effectivement très lourd dans cette histoire-là, c'est que ce sont des secrets de famille. Et les relations à l'intérieur d'une famille sont tellement complexes que parfois il faut attendre que quelqu'un soit mort, tout simplement, pour que la parole sorte. Oui, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que parmi toutes les violences sexuelles, l'inceste est celle dont on a le plus de mal à parler? Pourquoi est-ce que c'est celle qui fait l'objet d'un si grand tabou? C'est parce qu'elle touche fondamentalement à la structure de la famille. C'est parce qu'elle remet en question radicalement l'image que la société s'est construite de la famille comme un de ses piliers. C'est ça vraiment qui est qui rend les choses si compliquées.
Et la famille Agrandé le raconte extrêmement bien.
Exactement.
C'est vraiment la description de ce que vous venez d'expliquer.
Exactement.
Est-ce que je peux,
Muriel Salmona, ce sera le mot de la fin.
Voilà, oui, les mots de la fin. Je voulais dire aussi que par rapport à l'imprescriptibilité, c'était très important parce que ce sont des crimes, les pédocriminels, ils récidivent. Donc, je veux dire, c'est protéger aussi d'autres enfants. Enfin, la prescription, il y a ce problème. Et du coup, on demande aussi une levée de prescription en cas de crime en série. Et aussi, on demande aussi que l'amnésie traumatique soit reconnue comme un obstacle insurmontable.
Et ça changerait la prescription.
Voilà, ça changerait la prescription. Ouais. Et c'est vrai que c'est tout. Enfin, je veux dire que il faut, les victimes aussi, elles portent plainte, elles peuvent porter plainte même si les faits sont prescrits. C'est-à-dire qu'on peut déclencher quand même une enquête, d'ailleurs, on le voit. Mais elles portent plainte souvent parce qu'elles ont peur pour d'autres victimes. C'est-à-dire que c'est elles qui vont prendre sur elles pour faire cette démarche-là, pour justement protéger d'autres enfants. Et c'est ça qu'on veut. Il faut protéger les autres enfants. Et un pédocriminel, il ne fait pas forcément des victimes que dans l'intérieur de sa famille. Il en fait aussi ailleurs. Style, par exemple, le Squarneck, où c'est dans la famille, dans le voisinage, au travail, etc. Sur le net, enfin voilà. Donc il faut vraiment... l'impunité est vraiment un problème, parce que justement, ça expose tous les enfants.
Le débat est lancé, hein, madame la juge. Merci beaucoup, Marc Répond, Muriel Salmona, Marie-Pierre Porchy et bien sûr Camille Kouchner, d'avoir accepté de parler d'abord ce soir et puis de débattre, de réfléchir, de penser, d'essayer de pousser comme ça quelques feux de la réflexion à partir d'un livre. J'espère que ce livre, ce récit, donnera de la voix, de la force à toutes celles, à tous ceux que dévore l'hydre de la honte et de la culpabilité qui n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, trouver la force de révéler les crimes dont ils ont été victimes. L'écriture sert à cela. Voilà, entre autres. Et je crois que ce soir, on a bien dit à quel point un livre, une œuvre de fiction ou un récit était indispensable pour qu'une société change. La semaine prochaine, on fera changer d'autres choses. On parlera de la crise de la masculinité, tiens, en direct sur ce plateau, avec notamment Yvan Jablonka et en présence de Philippe Besson, qui sort un nouveau roman, de Leïla Slimani, qui vous proposera même une nuit au musée. Je rappelle que vous pouvez, en vous connectant sur les réseaux sociaux, vous pouvez repartir avec tous les livres dont nous avons parlé ce soir en répondant à la question qui vous sera posée et puis revoir cette émission sur le site france.tv. Vous pouvez même l'écouter en podcast sur toutes les plateformes. Et puisqu'on parle de podcast, je voudrais dire à quel point le podcast de Charlotte Pudlowski a été déterminant, je crois, pour beaucoup d'entre nous ici. Vous y avez beaucoup participé. En tout cas, moi, je l'ai écouté et il est extraordinairement bien fait sur Louis Média, si vous voulez aller plus loin après avoir lu ces livres. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, lisez avant d'avoir un avis. Écoutez, lisez et vous ferez votre opinion. Merci, bonne soirée, à la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.